Bonjour à tous. Donc je suis Daniel Audon d'Aix-en-Provence avec ma femme Sylviane qui est là. On revient tout juste d'une grande tournée. Effectivement, comme David l'a dit, on a fait le tour de camps de réfugiés en Italie, Grèce, Turquie et un petit peu en France aussi. Et on voudrait vous témoigner un petit peu de ce qu'on a pu faire. Là, c'est peut-être juste un petit peu le tour des endroits où on est passé. Vous voyez, il y a un paquet d'endroits. Et on est allé voir des tas et des tas de camps, soit sauvages, soit officiels, où il y avait des réfugiés qui nous arrivent des différents endroits de la Terre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi d'aller proclamer l'Évangile ou d'emmener des gens de l'église pour aller proclamer l'évangile. On a pu rencontrer parfois des frères, des chrétiens qui étaient là au milieu de la boue. On a pu parler à des peuples qui n'avaient jamais entendu l'évangile, des fois des Afghans qui arrivent de coins complètement improbables, et puis aussi motiver des amis. Alors là, il y a Sophie que tu connais peut-être. Et on a pu des fois démarrer des églises avec des gens comme ça. Alors, et puis arriver des fois même à des baptêmes. Voilà. Donc ça, c'était notre camion. Mais avant de parler de notre voyage, je voudrais peut-être qu'on ouvre nos Bibles et qu'on regarde ensemble. On connaît ce texte dans Matthieu 28 où le Seigneur nous dit allez et faites disciples toutes les nations. Alors c'est intéressant parce que c'est la fin. Le Seigneur, avant de partir, il va nous laisser quelque chose qui est optionnel ou quelque chose qui est important. Je crois que juste avant de nous quitter, il nous laisse un truc, et un truc qui est assez étonnant, où il va nous dire « Allez et faites disciples toutes les nations ». Vous savez, c'est quoi le mot en grec ?« Ethnie ». « Faites disciples toutes les ethnies. » C'est quoi les ethnies? Les groupes ethniques, c'est quoi ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que de voir que Jésus... Ah, mais j'ai traduit en anglais, j'ai oublié. Bon, il y a des trucs un peu en anglais parfois. Il y a des trucs en français, bon, je vous traduirai de toute façon. La chose qui est importante, c'est que Jésus va dire ça à la fin de Matthieu, donc en Galilée, il va leur donner cette consigne. Mais si on regarde à la fin de Marc, au chapitre 16, qu'est-ce que va dire Jésus à la fin? Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Encore une fois. Alors, Matthieu et Marc ont retenu la même chose. Et Luc, qu'est-ce qu'il a pensé, Luc? On va regarder aussi à la fin de Luc. Et si on arrive, donc tout à la fin, regardez ce qu'il est dit. Il enseignait au verset 46, il disait qu'on annoncerait de sa part aux hommes de toutes les ethnies, en commençant par Jérusalem, le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés. À toutes les ethnies, annoncer dans le monde entier la repentance, le pardon des péchés, le royaume de Dieu, le salut. Et dans Jean, on arrive à la fin de Jean, chapitre 20, et les disciples, ils sont là, et les deux ou trois qui sont là, et ils sont réunis, et puis Jésus qui apparaît au milieu d'eux, paix vous soit, que c'est beau, l'adoration, le temps avec le Seigneur. Et regardez ce que leur dit le Seigneur. C'est dans Jean 20. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bon, pétard, je pense qu'ils étaient contents d'être avec le Seigneur, et que ça leur dit le Seigneur. Allez, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. En fait, le Seigneur nous a laissés sur terre, nous, son Église, nous les chrétiens, nous les disciples, avec une mission bien précise, de faire de toutes les ethnies de la terre des disciples. Si le Seigneur nous a laissés sur terre, c'est avec un mandat bien clair et bien précis, qui est prioritaire et qui n'est pas optionnel, qui est le mandat de l'Église. C'est d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Et si ce n'est pas notre priorité, c'est peut-être qu'on a notre priorité ailleurs que là où est la priorité de Jésus. Pourquoi j'ose dire que c'est la priorité de Jésus? Parce que je vous dis que c'est ce qu'il va dire tout à la fin de sa vie, il va dire ça et puis il va partir. Et si on regarde dans les Actes des Apôtres, juste avant l'ascension, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que clairement, pour le Seigneur, la mission, c'est pas un truc en plus réservé à quelques spécialistes qui ont reçu un appel surnaturel. C'est pas du tout ça. La mission, la prédication de l'évangile à tous les peuples de la terre, c'est le, avec un grand L, mandat de l'Église. Tout entière. C'est pas le travail d'Audiovie, c'est pas le travail des missionnaires, c'est le mandat que le Seigneur a laissé à ses disciples avant de partir. Je veux dire, ouais, mais c'était peut-être pour les apôtres. Alors, regardez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir un truc, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est un travail pour les évangélistes. Tout le monde n'est pas évangéliste. Bien évidemment, il y a des gens qui ont des dons pour parler, pour annoncer l'évangile, et puis il y a des gens qui sont assez nuls. Mais on est tous appelés, mais oui, on est tous différents, on n'a pas tous le même don. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour annoncer l'évangile, c'est clair. Mais malgré tout, on est tous appelés à être part de cette grande mission de l'Église. Le petit doigt, il n'a pas le même rôle que le nez ou que l'oreille. Et pourtant, tout le corps fonctionne ensemble, uni. De la même façon, nous sommes corps de Christ au monde avec le but de réaliser la mission du Christ. Quelle est la mission du Christ? On a lu dans Ésaïe, vous avez vu Ésaïe? Le texte qu'on a lu ce matin dans Ésaïe 52, mais c'est ce qu'on appelle les cantiques du serviteur. On appelle des fois Ésaïe l'évangile de l'Ancien Testament parce que il est parlé beaucoup du Seigneur Jésus et de ce qu'il doit faire. Regardez dans Ésaïe 42 ce qu'il est dit du serviteur de l'Éternel, du Messie, de Jésus. Je lui donne mon esprit et il établira la justice pour les nations, les ethnies. Vous avez vu le psaume qu'on a lu ce matin, psaume 66? Il était encore question et on le lit, on n'a pas attention. Fais pas attention. Mais le rôle du Messie, c'est d'annoncer, d'établir la justice parmi les nations, parmi les ethnies, parmi les peuples. Le salut des peuples n'est pas un thème secondaire, c'est le thème majeur dans les psaumes et dans Ésaïe, qui sont quand même des livres qui sont absolument fondamentaux. C'est un thème majeur. Relisez le psaume 22, vous allez voir ce qu'il est dit à la fin. Il est parlé d'annoncer l'évangile aux nations. On a lu Ésaïe 52, il était question d'annoncer l'évangile aux nations. Regardez quel est le rôle du Seigneur. Il ne faiblira pas, il ne pleura pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Je t'ai appelé, moi l'Éternel, pour quoi faire? Pour conclure alliance pour les peuples, pour être la lumière des nations. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour être la lumière des ethnies. Mais est-ce qu'il a passé sa vie à annoncer l'évangile aux non-juifs? Non. Mais pourtant, il est venu pour ça. Il a fait son rôle et nous, il nous a laissés sur terre pour continuer et faire avec lui, par son esprit, le travail qui est le sien, c'est-à-dire d'être lumière des nations. Il y a une cohérence, c'est pas Jésus qui, en dernière minute, il dit « Ah, au fait, j'ai pensé à un truc, là, ce serait bien d'aller... » Non, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est inscrit dans le livre d'Ésaïe, qui est inscrit dans les psaumes, et quand Jésus va dire d'aller, de faire disciples toutes les ethnies, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui est fondamental. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas encore revenu? Nous l'attendons. Alors, il y a les disciples qui ont répondu à ça. Et si on lit dans 2 Pierre, au chapitre 3, et au verset 9, il est dit, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse de revenir. Hein, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait en effet, au contraire, que tous parviennent à la repentance. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas revenu? Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés, qui ne sont pas encore sauvés. Parce que le travail qu'il nous a confié n'est peut-être pas encore fini. Donc des fois on dit, nous attendons le Seigneur, nous devons être prêts. Mais moi je vais retourner la question, le Seigneur nous attend, il nous a laissé un travail, il a dit, je reviendrai quand vous aurez fait le travail, allez dans le monde entier, faites disciples toutes les nations, et après il va revenir. Et le travail n'est pas fini puisqu'il y a encore environ 1000 peuples pour lesquels on ne connaît aucun chrétien. Ce qu'on appelle des peuples non atteints par l'évangile. Ces peuples n'étant pas sauvés parce qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile, comment peuvent-ils croire s'ils n'ont jamais entendu l'évangile? Et comment peuvent-ils entendre l'évangile si personne ne prêche? Pourquoi le Seigneur n'est pas revenu? Il patiente. Il nous attend. On va lire dans l'Apocalypse, chapitre 7, où il est question des temps où on est justement avec le Seigneur. Regardez, c'est beau. Apocalypse, chapitre 7, et au verset 9. « Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Mais je vais vous dire quelque chose, cette scène n'est pas possible aujourd'hui. Parce qu'il y a des peuples, vous avez bien vu ce qui est marqué, hein? Toute langue, toute tribu, toute nation. C'est insisté, hein? Il y a le détail. Eh bien aujourd'hui, on connaît plus de 1000 peuples pour lesquels il y a zéro chrétien. Et 1000 peuples pour lesquels les chrétiens se tiennent sur les doigts d'une main. Donc cette scène qu'on voit dans l'Apocalypse n'est pas possible. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas revenu? Parce qu'il veut revenir et avoir des gens, disciples, de tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Regardez, on a parlé aussi du retour de Jésus-Christ, on l'a chanté, un très beau cantique, que je ne connaissais pas, et magnifique, qui disait, il y aura des tremblements de terre, et c'est Matthieu 24, vous savez, les disciples demandent à Jésus, mais c'est quand que tu reviens? C'est quand que tu vas nous enlever? On veut être avec toi, Matthieu 24. Regardez la réponse que fait Jésus, Matthieu 24. C'est quand que tu reviens? C'est quel signe qui annoncera ta venue, la fin du monde? Donc verset 3, Matthieu 24. Jésus leur répond. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous savez, qu'est-ce qui doit se passer pour que Jésus revienne? C'est important de lire et de connaître la Bible pour savoir interpréter les signes des temps. Alors, question d'apostasie. Alors ça, de l'apostasie, dans l'Église, on en a. Hein, des faux chrétiens, des faux messies, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux oints. Ok, il y en a. Bon. Deuxième signe, des guerres et des bruits de guerre. On en entend? Il y en a aussi. Hein. Gardez bien vos bagages, les colis abandonnés, les machins. Ok, les guerres, les bruits de guerre, c'est bon. Quand vous verrez ces choses, soyez prêts, vous allez être enlevés. Ah non, c'est pas ça, pardon. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, cela doit arriver, mais ce n'est pas la fin. Mince, j'ai mal lu le verset, excusez-moi. On verra guerre, bruit de guerre, nation, famine, tremblement de terre, à ce moment-là, ça y est, c'est la fin, vous allez être enlevés. Ah non, non, ce ne sera pas la fin, ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Ah mince, mais c'est quand la fin? C'est les signes de la fin, et Jésus dit c'est le début. Des persécutions, il y en a aussi. Hein. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment-là. Il y a l'augmentation de la persécution. On est en train de se réaliser que demain, on va peut-être nous interdire la Bible comme livre homophobe, intolérant et je ne sais pas quoi. On voit bien que ça peut nous tomber dessus avec le développement de l'islam chez nous. Des persécutions, il y en aura, oui, mais toujours pas la fin. Mais c'est quand la fin? Verset 14. L'évangile du royaume de Dieu sera proclamé dans le monde entier pour que tous les peuples de la terre en entendent le témoignage. Alors viendra la fin. Quand viendra la fin? Et pour ça qu'il y a des versets qui disent qu'on peut hâter la venue du règne de Dieu. Comment? En prêchant l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas revenu? Parce que le travail n'est pas terminé. On n'est pas obligé d'attendre les persécutions et d'être dispersé pour aller prêcher la parole de Dieu. On peut aussi se lever volontairement. Vous savez que le Seigneur avait laissé à ses disciples un mandat clair d'aller en Judée, Samarie, jusqu'au bout de la terre, et eux, ils restaient à Jérusalem. Alors le Seigneur, il a dû mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est dans Acte 8, et il y a une grande persécution. Il y a Étienne qui se fait lapider, il y a une persécution des croyants, et les gens sont dispersés. C'est tous des réfugiés, les chrétiens. Tous les croyants se dispersèrent, donc tous des réfugiés. À travers la Judée, la Samarie, donc ils se mettent à obéir à l'ordre, à l'exception des apôtres. Donc les apôtres restent à Jérusalem, mais les autres partent. Et regardez ce qu'il est dit, verset 4, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant l'évangile. Qui prêche l'évangile? Seulement les apôtres? Vous avez vu, qu'est-ce qui est dispersé? Tout le monde sauf les apôtres. Qui prêche l'évangile? Tout le monde sauf les apôtres. Est-ce que c'est un mandat pour des apôtres ou des évangélistes? Pas seulement. Tous ceux qui avaient été dispersés proclamaient l'évangile dans les divers lieux où ils étaient dispersés. Alors là, on a de la chance. C'est pas nous qui sommes dispersés. Nous, on a la maison bien au chaud, tranquille. Et Et on a des gens qui viennent et à qui on peut annoncer l'évangile. C'est presque la même chose, mais c'est plus facile, c'est plus confortable. On peut annoncer l'évangile dans des conditions extrêmes, à des peuples complètement non atteints, complètement fermés à l'évangile, et revenir le soir avec mettre ses pantoufles et être tranquillement sur son canapé. Donc on a la possibilité d'accomplir la mission, aujourd'hui, dans des bonnes conditions. Qu'est-ce que c'est que les non atteints? Mais les non atteints, attention. C'était possible. Hop là. Je vais essayer de recaler le truc. Ça va, c'est bon. Je pense que c'est bon. Les non atteints, vous voyez sur la carte, il y a des zones rouges. C'est des endroits où il y a des peuples qui n'ont jamais entendu l'évangile. Je vais en parler un peu plus. Mais quand le Seigneur nous dit d'aller, de faire disciples toutes les nations, il ne parle pas en l'air. Il veut parler vraiment de toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Et je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce que sont ces non-atteints et quelles stratégies on doit avoir aussi pour les atteindre, pour qu'ils entendent l'évangile. On a ici à Perpignan des peuples non-atteints par l'évangile. Hier soir, on était avec Céline et on est allé voir quelqu'un du Darfour qui était un Zagawa. Et le peuple Zagawa, on connaît zéro chrétien. Si vous connaissez des chrétiens Zagawa, c'est intéressant, mais moi j'en connais pas. Et c'est vraiment un des peuples non atteints par l'évangile. Alors, vous avez vu que le Seigneur, en fait, était plein de compassion. Et ce matin, on avait ce verset dans Matthieu 9, hein, la fin, juste avant le discours sur la mission de Matthieu 10. Il a dit, voyant les foules, il fut ému de compassion, car elles étaient lasses et abattues, découragés, hein, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors la question, c'est nous, quand on voit les réfugiés, quel est notre regard? Moi, j'imagine les disciples, le regard qu'ils avaient. On se remet dans le contexte, Marc 6, multiplication des pains, vous vous rappelez un petit peu, Jésus avait envoyé ses disciples deux par deux prêcher l'évangile. Ils étaient allés faire évangélisation, ils reviennent, ils sont crevés, ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. En plus, il y a eu persécution, il y a eu Jean-Baptiste qui s'est fait décapiter. Alors Jésus leur propose, on va prendre un peu des vacances. Venez à l'écart, vous reposez un peu, Marc 6. Et donc ils prennent la barque et ils s'en vont pour être tranquilles un peu en vacances. Et là, tu as toute une foule de gars qui débarquent. Et ils ont tous des problèmes, et ils veulent tous qu'on s'occupe d'eux. Imaginez la tête des disciples. Et pas de mal, hein? Ils étaient contents, les disciples? Et vous voyez ce qui est marqué de Jésus? Voyant la foule, il fut ému de compassion. Et il se mit à les enseigner longuement. Et qu'est-ce que disent les disciples? Seigneur, il est tard, renvoie-les. Tous ces Syriens, tous ces Afghans, tous ces Soudanais, là. Renvoie-les. Franchement, ils pourraient combattre chez eux pour la liberté. Qu'est-ce qu'on en a besoin de tous ces gens ici? Renvoie-les. Ça, c'est l'attitude des disciples. Et l'attitude du Seigneur, il leur fit bon accueil. Vous savez quoi? On a besoin de changer pour non seulement obéir au Seigneur qui nous a dit d'annoncer l'évangile, mais d'être comme le Seigneur. Souvent, on est comme les disciples. Et on a besoin de passer au cran supérieur. Au lieu de penser renvoiler, de dire, ils sont là, abattus, j'ai de la compassion pour eux, je les aime et je veux qu'ils soient sauvés. Alors, je vous ai montré quelques vidéos. Vous voyez, là, on est dans un camp à Calais, avec des Soudanais, et en train de leur envoyer l'évangile de téléphone à téléphone par Bluetooth pour qu'ils puissent entendre l'évangile. Et puis je suis avec des anciens d'une église qui sont venus, ils habitaient juste à côté, mais ils n'avaient jamais mis les pieds dans le camp de réfugiés parce qu'ils me disaient, mais c'est dangereux, peut-être il y a des extrémistes, peut-être il y a Al-Qaïda, peut-être qu'on va choper la tuberculose ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il a fallu faire du travail de pédagogie, les prendre par la main et leur montrer que finalement ils étaient bien gentils et qu'il n'y avait aucun problème. Et aujourd'hui, on a la possibilité, là je suis au milieu d'un groupe d'Afghans, donc des Pashtous, hein, c'est la tribu des talibans, et on peut prêcher l'évangile sans aucun risque à des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Et on est, nous, en tant que chrétiens, des fois un peu ridicules, dans le sens où on va envoyer des missionnaires en Afghanistan, et quand on a des Afghans chez nous, on n'est pas capable de leur prêcher l'évangile, quoi. Alors il y a des gars, ils se font brûler vifs, tuer en Afghanistan. Et nous, on a des Afghans ici, on peut les évangéliser, et puis voilà, quoi, on prie pour la mission. Donc je pense que stratégiquement, alors tu vois, il y en a qui vont me dire, mais toi Daniel, t'es un courageux, t'es un warrior, ah nous on n'est pas comme toi, on peut pas. Ben vous savez quoi, si c'est possible. Regardez, ah, c'est une équipe de warriors. C'est un ami à moi, Rémi Linguet, il s'appelle, il est pasteur ou ancien dans une petite église baptiste en région parisienne à Étréchy. Et il me dit, Daniel, je l'appelle pour autre chose, je voulais lui demander s'il voulait pas venir faire un camp avec moi. Et il me dit, ouais, bah, je lui demande, ça va ton église? Il me dit, ouais, non, c'est pas bien, on est dans une zone industrielle. Et il n'y a personne, il n'y a que des Tchétchènes. Les gars, ils ont des barbes comme ça, c'est tous des intégristes et ils ne parlent pas un mot ni d'anglais ni de français, alors on ne peut rien faire. Je dis, comment ça, rien faire? J'ai dit, ah pétard, j'ai ton projet pour les 10 prochaines années, mon ami. On va y aller avec les outils audio-vie. Il me dit, mais non, mon église, si t'imagines, ma mamie, regarde mon église, regarde comme ils sont. Pff, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Rien à faire. Je dis, allez, mets tout ton église, on y va. Et on allait faire une sortie d'évangélisation chez les Tchétchènes, avec l'équipe de warriors que voilà. Donc on avait acheté des galettes des rois, parce que c'était en janvier. Et puis, on s'était réparti les familles tchétchènes et on allait voir toutes les familles tchétchènes. Et bien, toutes les familles tchétchènes ont accepté volontiers l'évangile. Toutes les familles tchétchènes avaient l'évangile dans leur téléphone et un DVD avec le film Jésus et les films d'audio-vie dans leur téléviseur. Et on a eu zéro refus. Et tous les gars, ils avaient effectivement des barbes comme ça. Les femmes, il y avait petits grillages, là, on voyait juste les yeux, quoi. Première famille où on arrive, la femme qui nous dit, c'est bien que vous nous parlez de Jésus, parce que cette nuit, justement, j'ai rêvé de lui, je me demandais pourquoi il avait tant souffert, je me posais des questions, c'est bien que vous veniez nous parler de Jésus. Et on est revenu une heure après, parce qu'on avait oublié notre blouson chez la femme, elle était toujours avec son grand voile intégral, là, et elle était en train d'écouter l'évangile sur son téléphone. Donc on a des gens qui sont prêts à écouter, mais qui connaissent pas l'évangile, parce que personne n'est venu prêcher. Ils habitent à côté de chrétiens, ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient là, ces Tchétchènes. Personne n'était allé leur présenter l'évangile. Donc des fois, le Seigneur attend aussi qu'on obéisse simplement et qu'on se lève. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être des grands, courageux, costauds. On a pu y aller et on allait annoncer l'évangile avec les familles de l'église. Alors on a des outils qui sont sympas pour passer l'évangile de téléphone à téléphone, hein, avec les moyens de technologie. Aujourd'hui on peut communiquer avec des gens même dont on ne connaît pas la ville, on peut faire jouer l'évangile sur une petite radio comme ça et montrer les images, et quand il y a la clochette on sait que c'est le temps de tourner la page et vous voyez des peuples qui viennent de la Somalie qui peuvent entendre l'évangile pour la première fois. Donc là, j'étais dans le Nord avec Robert Després, vous savez qu'en France, on a tous ces camps. Et puis ensuite, on a décidé avec ma femme, donc nous, tous les 7 ans, on essaye de faire une année sabbatique, de faire un break. Alors, on a vu que les Juifs faisaient ça, on s'est dit, pourquoi les Juifs et pas nous, hein? Je vois pas pourquoi on rétrograderait, c'est pas mal comme principe. Tous les 7 ans, on essaye de faire des économies pendant 6 ans, et la 7e année, de partir en mission. Donc on a fait 2 fois en Afrique, et ce coup-ci on a décidé de faire la tournée donc des camps de réfugiés, et on a fait ce voyage, donc vous voyez, donc c'est tous les endroits où on est passé. Et on est pu passer, par exemple là on est au bord du lac de Côme, au nord de l'Italie, et vous voyez plein de réfugiés d'Afrique qui sont là, Afrique de l'Ouest principalement, et on est allé parler avec eux, et ils nous disent, mais c'est super, venez nous parler, parce que personne ne nous parle ici. Les gens ne viennent pas nous parler. On est là toute la journée à rien faire et on attend. Personne ne nous parle. Et il y a plusieurs qui étaient francophones, qui viennent de Guinée, Sénégal, Mauritanie, pays comme ça, et avec qui on peut communiquer en français facilement. Vous avez vu le site en plus, c'est sympa, non, pour faire de l'évangélisation. J'ai dit, mais pour le week-end, là. Alors, notre travail aussi, c'est d'essayer de sensibiliser les églises évangéliques, comme la vôtre aujourd'hui, à la possibilité qu'on a, des fois, de joindre l'utile à l'agréable et de passer du temps à faire des amis et en même temps proclamer l'évangile à des gens qui n'ont jamais entendu. Là, on est dans un squat avec des Kabyles d'Algérie. J'avais donné à l'un d'entre eux le message de l'évangile dans son téléphone. On est revenu le jour de Noël, parce qu'on était en mission, on était loin de la famille, et on allait projeter le film de Jésus. Et on est arrivé, je voulais leur projeter le petit film que j'avais donné par Bluetooth dans le téléphone de l'un d'eux. Et tous me disent, mais non, on l'a tous vu. Je dis, mais comment on l'a fait? Ben, en fait, ils l'avaient tous donné de téléphone à téléphone, et tous avaient vu et écouté le message. Vous voyez un petit peu avec les nouvelles technologies, des fois on a des peuples comme ça qui ont la soif de l'évangile. Ils ont commencé à prendre les bougies, faire une croix avec, etc. Et ils étaient tous super ouverts, alors qu'ils étaient tous musulmans. Et là, on est avec des Turkmènes, des Syriens, des Kurdes, dans une petite église pentecôtiste en Grèce. Voilà, pour vous dire qu'il est possible d'amener des réfugiés aussi au culte. Ils viennent volontiers si on les invite et si on les véhicule. Là, c'est aussi le jour de Noël. On était sur le bord de la route, et puis il y avait des Afghans qui étaient en train de manger leur portion de Noël, leur petit saumon. Il faisait moins 5 dehors, ils étaient là en train de manger, assis sur le goudron. Et c'est dommage parce que c'est dans cette île, c'était à Lesbos, hein, au large de la Turquie. Il y a 15 associations chrétiennes qui sont là. Ils avaient tous décidé de faire les vacances le jour de Noël. Et les seuls qui avaient fait quelque chose pour Noël, c'était les no-borders, anarchistes, gauchistes, anti-chrétiens, qui avaient donné un peu d'argent à des Pakistanais pour qu'ils fassent des crêpes. Et donc, ils avaient fait une fête, mais sans Dieu et sans Jésus. Et tous les chrétiens, eux, ils travaillent toute la semaine à faire du laïc, à donner des chaussures, à donner des habits, à nettoyer les toilettes, à monter des tentes, à servir la soupe. Mais personne n'a l'idée de prêcher l'évangile. Et je pense qu'en tant que chrétien, stratégiquement, des fois, on rate. Parce que le Seigneur nous a demandé d'annoncer l'évangile, il nous a pas demandé de laver les toilettes. C'est bien de laver les toilettes, je critique pas. Mais je pense que ça doit s'inclure dans une stratégie où l'annonce de l'évangile est première, et pas le lavage des toilettes. Donc, je dis, nos objectifs, ça doit être non seulement d'obéir au maître, hein, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et ce commandement de la mission, c'est pas une option. Allez, faites disciples toutes les nations, je veux dire, c'est un impératif. C'est pas si vous avez un peu de temps, au milieu, il y a la louange d'abord, et puis non, c'est vraiment le commandement clair, net et précis que le Seigneur laisse à la fin et qui est premier. Et ce commandement-là, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Pas seulement obéir au maître, mais ressembler au maître. Nous sommes appelés à devenir. Et quand on prend la Sainte Cène, c'est pour que Jésus-Christ vive en nous. C'est ça, symboliquement, on se nourrit de Jésus-Christ. On est assimilé à Jésus-Christ. Nous sommes Jésus-Christ au monde, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes représentants de Jésus-Christ, nous sommes la voix de Jésus-Christ. Les pieds de Jésus-Christ, les mains de Jésus-Christ. Nous sommes Jésus-Christ au monde. Nous sommes appelés à porter l'évangile. Et tous ces textes d'Ésaïe nous concernent. Lumière des nations, c'est nous qui sommes appelés à être lumière des nations. Nous sommes appelés à être Jésus-Christ au monde. Nourrir la foule. Quand Jésus nous dit « Vous, donnez-leur à manger », qu'est-ce qu'ils disent les disciples ? Où c'est qu'on va trouver l'argent ? Et puis ils sont combien ? Ils sont trop nombreux. Puis les boulangeries, elles sont loin. Puis... Ça, c'est les disciples. Ils trouvent tous les problèmes possibles et imaginables. Catalogue de problèmes. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les opportunités. Et je pense qu'on a vraiment besoin de changer notre regard. Et quand le Seigneur nous dit « Vous, donnez-leur à manger », je pense qu'il pense au pain que les disciples ne connaissaient pas. La parole. Quand la foule arrive, est-ce que Jésus commence à faire la distribution de sandwich ? Non. Il les enseigne longuement. Et le lendemain, ils reviennent, ils reveulent un sandwich, et bien ils auront la parole et ils n'auront pas le sandwich. Quand nous sommes appelés à nourrir la foule, c'est d'abord de la parole de Dieu. Hein, relisez Jean 6, on le voit vraiment, il va leur donner l'enseignement d'abord, ensuite il y a la multiplication des pains, et le lendemain ils reviennent, ils veulent du pain, et il leur donne la parole. Nous sommes appelés à porter la parole de Dieu. Et saisir les opportunités, comme le maître. Je veux dire qu'aujourd'hui nous avons une opportunité unique d'avoir tous les peuples non atteints. Je ne sais pas si vous avez vu l'index de persécution de portes ouvertes. Vous avez vu les 10 premiers pays, à part la Corée du Nord, tous les autres, c'est tous les pays d'où viennent les réfugiés. C'est tous les pays dont nous sommes, tous ces gens-là sont là à Perpignan. Les Afghans, Érythréens, Iraniens, Soudanais, Syriens, Irakiens, Iraniens, Yémen, tous ces gens-là sont Pakistan, tous ces gens-là sont ici à nos portes. Tous ces gens-là, à Paris, on a des milliers qui sont dans la rue, à dormir dans la rue, porte de la chapelle, parce qu'ils attendent pour faire avoir leurs papiers. Donc le Seigneur nous dit d'être simple comme des colombes, ça on y arrive bien, et d'être rusé comme des serpents, ça on a des progrès à faire. Et je pense qu'on a vraiment besoin de réfléchir à des stratégies, à réfléchir, d'être intelligent, avisé, et de savoir comment exploiter cette situation pour annoncer l'évangile à toutes les nations, parce qu'on a une consigne claire, on est ici pour annoncer l'évangile à toutes les nations, et on a toutes les nations qui sont là. Alors je vous ai parlé de quelques pays, hein, la Syrie, donc on a beaucoup de Kurdes et d'Arabes, Les massacres au Darfour, donc on a beaucoup de peuples, mais la langue principale, c'est l'arabe soudanais. Donc là, c'est au Darfour, justement. On nous a expliqué, on a un auteur soudanais très connu qui vient de se convertir. Et il était avec nous. Et il nous a raconté la situation épouvantable. Depuis 15 ans, le gouvernement, aidé par des milices, massacre la population pour vendre les terres à des riches émirs du Qatar ou d'Arabie Saoudite pour faire de l'agriculture industrielle. Donc on a des gens qui arrivent d'Afghanistan, là aussi, les Afghans, des fois on leur dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Ils disent « Mais moi, je cherche juste un endroit où je peux mettre mes enfants à l'école en étant sûr qu'ils vont pas avoir une bombe ou qu'on les tue, quoi. » C'est, ça a l'air fou, mais ils cherchent juste un endroit où on leur fiche la paix, quoi. C'est impossible de vivre dans ces pays. Il y a des fadas qui sont là et qui viennent tuer les gens pour un oui, pour un non. Somalie, c'est pareil. C'est des pays complètement délités, complètement... Donc il y a Daesh qui nous envoie plein d'Irakiens, de Syriens. Et puis il y a des dictatures comme l'Érythrée, hein, où on a donc des gens qui arrivent. Et puis la Syrie, on a beaucoup de gens qui nous arrivent de ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? On peut, la première chose, c'est d'essayer d'impliquer les églises. Pourquoi impliquer les églises ? Parce que le travail, ce n'est pas le travail d'audiovis, c'est pas le travail de missionnaire spécialisé, c'est, je le répète, le travail de toute l'église. Donc, toutes les églises, et je vais venir un peu plus tard, ont leurs choses à faire. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire ? On va en parler. Il faut aussi qu'on cible les non-atteints. Moi, j'ai vu plusieurs églises qui ont trois Nigérians qui viennent au culte, et puis ça y est, ils font de l'évangélisation parmi les migrants. Les Nigérians, ils sont à 70% chrétiens dans la zone d'où ils viennent, d'accord ? Donc, c'est pas des non-atteints. Les Nigérians, les Congolais, c'est des peuples qui ont le droit d'avoir l'évangile. Mais on a ici des Somalis, des Afghans, des Bengalis, des gens pour lesquels il y a 0,00% de chrétiens. Donc, on doit aussi saisir l'opportunité, non seulement pour annoncer l'évangile à ceux qui le connaissent et qui l'écoutent volontiers, mais aussi à ceux qui n'en veulent pas et qui n'ont jamais entendu. On n'est pas appelé forcément à avoir de la réussite, mais on est appelé à proclamer l'évangile. Donc il faut qu'on connaisse aussi un petit peu ces non-atteints et qu'on aille les voir. Il faut aussi connaître et utiliser les bons outils. C'est difficile de communiquer avec un Tchétchène qui parle ni français, ni anglais, ni rien du tout. Comment faire ? Et vous allez voir qu'on a les outils qui vont bien. La technologie aujourd'hui nous est de grand secours et il y a de la place pour les jeunes. Et les meilleures équipes, c'est des équipes où on a un partenariat entre un vieux et un jeune. Et les deux qui vont ensemble. Le vieux qui apporte la stabilité, la vision, l'enseignement, le mentorat, et le jeune qui aide pour la technique. Et sans le jeune, on n'y arrive pas. Et on a vraiment besoin de faire des tandems entre générations aussi pour annoncer l'évangile aux migrants. On a aussi besoin d'enregistrer les enregistrements manquants. Audiovie a enregistré les messages en 6500 langues. C'est la première base de données évangélique au monde. Après, il y a le film Jésus qui ont 1500 enregistrements. On a aussi des bibles audio pour un millier de langues environ. Mais actuellement, il y a plus de 10 000 langues et il reste des langues pour lesquelles on n'a rien. Comme les berbères de Libye, par exemple, on n'a pas encore fait. Et puis, on a besoin de travailler en partenariat. Il y a des œuvres qui font de l'humanitaire, il y a des œuvres qui font du discipulat, de la relation d'aide, etc. Je voulais juste vous lire un petit peu, ça c'est des théologiens qui ont réfléchi à Lausanne, c'est un groupement qui réfléchit sur la mission. Et à Lausanne, ils avaient réfléchi dans les années 80 sur le problème des réfugiés et j'ai trouvé intéressant. Regardez ce qu'ils disent ces théologiens qui se sont posés sur le problème des réfugiés. L'église locale a besoin de réaliser le rôle clé qu'elle a à jouer dans tous les domaines du ministère pour les réfugiés. Tous les croyants ont leur place dans un ou plusieurs des domaines de ce ministère. Ça, c'est des théologiens, c'est pas Daniel Audion qui a phosphoré, c'est des gens qui se sont posés, qui ont regardé dans la Bible et qui derrière arrivent sur cette conclusion que l'église locale a un rôle clé et que tous les croyants ont leur place. C'est important quand même. Et regardez ce qu'il est dit, l'expérience montre que les églises locales qui se sont impliquées ont vécu une unité plus profonde, un réveil et un enrichissement dans plusieurs domaines. On peut penser, mais si je travaille parmi les réfugiés, ça va nous appauvrir. Ben, c'est exactement le contraire. Au contraire, c'est quelque chose qui peut dynamiser et enrichir la vie de l'église. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'église ? Eh bien, on peut faire des visites de proximité. Vous savez qu'on a ici, et on a Terza. Donc Terza, c'est une kurde convertie depuis plusieurs années, depuis longtemps. Et j'arrive pas à caler ce truc. Ça a l'air bon. On va pas dégringoler. Ouais, pour pas que ça tombe. Donc Terza, elle vient de Montpellier, elle est kurde, elle vient avec son camping-car, et ils sont venus là, ils étaient dans une autre église centre chrétien là. Et il y a des gens qui ont cru. On a des kurdes chrétiens, ici à Perpignan, chemin de la poudrerie 26. Et il y a des kurdes chrétiens qui habitent là. On a besoin de leur témoigner de l'affection, de les inviter, de leur montrer que le corps de Christ, c'est pas un vain mot. Et ces gens-là, donc, il y a des chrétiens ou des gens qui ont entendu l'évangile à Calais et qui ont été redispatchés à droite à gauche. Et c'est quelque chose que l'Église peut faire, mais c'est d'aller simplement témoigner de l'affection, continuer le témoignage chrétien auprès des personnes auprès de qui on a commencé ce témoignage. Et puis de faire de l'évangélisation de proximité, ce qu'on aimerait faire cet après-midi, c'est pas la responsabilité de Audiovie ou de qui que ce soit, mais je veux dire, chacun est responsable du pauvre à sa porte, n'est-ce pas? Et je veux dire que si le Seigneur a mis à notre porte des gens qui sont non atteints par l'évangile, je pense que l'église locale a la responsabilité du pauvre qui est à la porte. Le riche qui avait Lazare à sa porte, il pouvait se dire aussi, oui, mais il y a l'armée du salut qui peut s'en occuper, il y a le SAMU social, et pourtant, vous avez vu, c'est lui qui est concerné par le pauvre à sa porte. Donc la question c'est, vous avez un rôle à jouer par rapport aux peuples non atteints qui sont à votre porte ici à Perpignan. On peut apporter aussi de la formation biblique, on a des gens qui ont cru, et je pense à ces trois Kurdes là par exemple, mais il y en a d'autres, et on a besoin de leur faire un catéchisme de base. Il ne faut pas seulement les faire venir au culte, hein, c'est bien qu'ils entendent un petit peu des cantiques, des psaumes, mais on a vraiment besoin de leur expliquer de A à Z et leur faire un cours catéchétique pour adultes pour les aider à grandir. Il y a besoin de soins pastoraux, on a des gens qui sont traumatisés, hein, toute la famille est tuée, des bombes tombées sur la maison, femme disparue en mer, on a vraiment des gens traumatisés qui ont perdu leur travail, leur honneur, leur langue, leur pays, leur famille, et qui sont perdus, quoi, donc qui ont besoin de soins pastoraux. Et puis, bon, bien sûr, des fois, on a un converti Paul, le gars, il avait sa chemise, il faisait moins 5, il avait que sa chemise, quoi. Donc on a des fois besoin aussi de savoir donner son manteau. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? On a des technologies modernes, hein, vous connaissez peut-être les WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook et tout ça, qui permettent de suivre les contacts. Souvent les migrants, quand on les rencontre à droite à gauche, moi j'en rencontre en Grèce, en Italie, à Paris, à Dunkerque, en fait ils tournent de partout ces gens-là, et on essaye de prendre leurs contacts WhatsApp par exemple, pour pouvoir les suivre, et même s'ils ont un numéro d'Afghanistan, on peut les appeler gratuitement par ces technologies. Vous connaissez peut-être Skype, hein, c'est du même genre que Skype, mais c'est plus utilisé par ces gens-là. Il faut savoir, par exemple en Irak, ils ont tous Viber, en Syrie, ils ont tous WhatsApp. Bon, après, il faut connaître un petit peu ce genre de technologie, mais ça permet de correspondre avec eux, de les suivre, savoir où ils sont, et on peut vous transmettre un contact si vous avez quelqu'un qui peut utiliser ces choses-là. Je ne sais pas si vous connaissez Google Translate aussi, c'est assez extraordinaire. C'est des outils qu'on trouve sur les téléphones, et je vais parler à mon téléphone en français, et lui, il va répéter en farsi. Même parler en catalan et que ça sorte en arabe ou en espagnol. Donc on peut parler dans une langue et tendre le téléphone à l'autre et ça lui répète le truc en arabe. Et le gars il vous répond en arabe, vous le mettez sur l'oreille et ça continue en français. Donc ça c'est des outils super pour communiquer avec des migrants. Vous pouvez parler dans des langues comme le bengali, l'ourdou du Pakistan, l'arabe, le farsi. Ensuite, pour faire l'évangélisation, il y a tous les outils Audiovie. Donc après le petit brunch, on fera une présentation de ces outils. On a des cours de discipula al-Masira pour des arabophones ou des farsis, pour des gens d'arrière-plan musulmans. Il y a de la littérature, il y a des outils de formation de disciples. Toutes des choses qu'on peut mettre à votre disposition si vous impliquez dans ce travail. On peut même avoir des gens qui viennent spécialement d'Égypte, qui parlent arabe et qui peuvent venir donner un coup de main pour les églises qui ont un nombre suffisant d'arabophones pendant les cultes. Et puis, bon, ben, il y a des gens qui sont spécialisés dans des missions dans différents domaines et qui peuvent aider. Alors, les non-atteints qu'on a aujourd'hui, on a les Pakistanais. Vous savez où c'est le Pakistan? Hein, c'est à l'ouest de l'Inde. Donc l'Inde qui est là, Pakistan qui est là. Donc des peuples non atteints, de la persécution, on en a beaucoup. Quelle est la langue principale, Pakistan? Ourdou. Donc Ourdou, on a aussi le Punjabi, on a aussi d'autres langues. Hein, Audiovie a enregistré, donc on a un outil, vous cherchez le pays et puis vous avez toute la liste des langues, mais l'Ourdou effectivement est la plus grande. Ensuite l'Afghanistan. L'Afghanistan qui est juste à côté du Pakistan, à l'ouest du Pakistan, donc vers là. Et en Afghanistan, on parle quelle langue? Le Dari, ouais. Le Dari, donc c'est la langue, c'est une langue farsi, c'est la même langue qu'en Iran, d'accord? En Iran, on a le farsi, le Dari, et une autre langue importante, c'est le Pashtou. Hein, vous avez entendu parler des guerriers Pashtou, les talibans et tout ça. Donc les Pashtous, c'est aussi un peuple à Paris, on a un millier de Pashtous qui sont là dans la rue. Donc le Dari, le Pashtun, mais il y a plein d'autres langues, plein de minorités. On a par exemple les Hazaraji, donc c'est des gens qui ont le type chinois un peu, et ils viennent donc de l'Est, de la Mongolie, et ils sont chiites, ils sont persécutés par les Pashtous et les Dari, et donc c'est intéressant aussi de pouvoir annoncer l'évangile en Hazaraji. On a aussi donc des Tadjiks, on a plusieurs peuples qui sont là, et Audiovie a enregistré des messages donc dans les langues de tous ces pays. Ensuite, on a les Arabes et Kurdes qui viennent principalement alors du Yémen, on a des gens qui viennent de Syrie, d'Irak, et donc les Kurdes, des Kurdes, on a plusieurs langues, mais il y a deux grandes principales, le Kurde du Nord, hein, le Kurmanji, le Kurde du Sud, Sorani, beaucoup de West-Africains, surtout en Italie. Donc tout ce qui est et là aussi c'est tous des peuples non atteints, hein, Bambara, Djoula, Soninké, Wolof, Poular, etc. Donc ça, je dis juste les grandes langues. On a aussi pas mal de Mauritaniens, Hassania. Donc tous ces peuples là sont à nos portes aujourd'hui et on peut leur annoncer l'évangile. Et puis on a des Est-Africains, donc des Tigrinyas qui eux sont chrétiens orthodoxes, mais il y a aussi des peuples non atteints en Érythrée, les Tigrés par exemple. Donc, beaucoup de Somaliens. Très très fermé à l'évangile, très très peu de chrétiens, mais on en a. On a des Éthiopiens un petit peu, dont certains musulmans, de peuples non atteints aussi. Puis on a des immigrés aussi, hein. À Marseille par exemple, 10% de la population qui vient d'ici, les îles des Comores, et il n'y a quasiment personne qui leur annonce l'évangile, alors qu'il est absolument impossible d'annoncer l'évangile aux Comoriens en Comores. C'est très difficile, et on a 10% de la population de Marseille, 86 000 personnes qui viennent de Grande Comore à Marseille. Il y a plus de Comoriens à Marseille qu'à Moroni, la capitale des Comores. Et je connais plusieurs missionnaires aux Comores et quasiment personne à Marseille. Donc quand je vous disais qu'on a besoin de stratégie et de réflexion, je fais allusion à ça. On peut annoncer l'évangile facilement à Marseille, on peut se mettre avec un porte-voix dans la rue et prêcher l'évangile sans problème, personne ne nous embêtera, les Comoriens ils sont contents, ils vous invitent chez eux, ils acceptent volontiers l'évangile. Mais alors pourquoi on envoie des missionnaires qui ne peuvent pas travailler, alors qu'à Marseille on peut travailler et personne n'y vient? Donc ça, moi, je pense qu'on a vraiment besoin aussi de comprendre qu'on a des opportunités extraordinaires d'annoncer l'évangile. Alors, un truc qu'aussi on ne réalise pas, c'est que 60% de la population mondiale ne lit pas ou ne lit pas bien. Pas suffisamment pour comprendre un livre comme la Bible. On peut lire les panneaux, lire des prix, lire quelques indications, mais pas forcément lire bien. Et on travaille beaucoup avec l'écrit, donc Audiovie essaye de travailler vraiment avec des messages enregistrés. Il y a aussi des peuples qui sont de culture orale, en particulier en Afrique, et qui vont préférer écouter que lire. Il y a environ 10 000 langues et dialectes, et Audiovie a enregistré donc 6 500 langues pour l'instant, et on aimerait finir le travail. Et puis, il y a l'importance de la langue du cœur. Peut-être certains parlent bien le français, mais malgré tout, leur langue maternelle, ça va être le Wolof, par exemple. Et si j'annonce l'évangile en français, ben c'est la religion du blanc, c'est la langue du blanc. Et je vais faire comme le blanc. Mais pendant la semaine, je vais aller faire mes rituels vaudous ou occultes avec des costumes traditionnels et la langue traditionnelle. Nous avons d'où l'importance d'annoncer l'évangile dans la langue du cœur pour que les gens soient atteints dans les couches profondes de leur âme. Alors aujourd'hui, on a tous les migrants qui sont là dans les CAO, dans le centre d'accueil et d'orientation. On a, et il ne faut pas se contenter uniquement des peuples déjà chrétiens qui vont écouter l'évangile, mais de tous ces peuples. Donc j'ai parlé des Comoriens de Marseille, on a des West-Africains à Montreuil, on a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de West-Africains en région parisienne, complètement non atteints par l'évangile. Et puis, il y a tous qui sont non maghrébins, à part les Kabyles, tous les autres sont des peuples non atteints. Tous les maghrébins qu'on a. Et si vous savez, si on a tous ces problèmes aujourd'hui avec les maghrébins, c'est peut-être que dans les années 70, l'Église a failli à sa mission de leur annoncer l'Évangile. Si aujourd'hui, nos maghrébins de seconde génération sont si difficiles, c'est que peut-être on n'a pas annoncé l'Évangile de façon adéquate à ces gens-là qui étaient braves comme tout dans les années 70. Dans les années 70-80, les maghrébins qui venaient, ils étaient doux comme des agneaux. Et ils auraient volontiers entendu l'Évangile s'il y avait eu des gens pour leur prêcher. Et je pense qu'il ne faut pas renouveler l'erreur avec la nouvelle vague. Alors regardez, ça c'est la carte des CAO. Vous avez vu qu'il y en a quelques-uns, hein ? Vous avez compris ? Rien qu'à Perpignan, on en a deux. Donc qu'est-ce que c'est ? Les CAO, c'est les centres d'accueil et d'orientation. C'est là où sont tous les gens qui étaient dans la jungle de Calais et qu'on vient de dispatcher partout en France. Vous avez vu qu'il y en a, hein ? Alors ça, c'est juste pour 2-3 mois et après ils vont être dans des CADA, centres d'accueil des demandeurs d'asile. Donc là, le CAO ici, il est à Sainte-Marie. Et le CADA, il se trouve rue de la chemin de la Poudrerie, ici à Perpignan. Mais vous voyez qu'il y a du monde et qu'il y a du travail. Alors comment on peut s'y prendre? Vous allez me dire, ouais mais Daniel, comment je fais moi si je trouve un Afghan en face de moi, là, je ne sais pas quoi lui dire. Là, je me sens bien emprunté. La première chose, allez lui dire bonjour. Ça a l'air bête, mais quand vous allez, vous, dans un pays comme ça, les gars, ils viennent vous dire bonjour. T'es étranger, bonjour. Bah, t'as un étranger qui vient dans ton pays, tu vas le saluer, tu vas l'accueillir, tu vas lui dire bienvenue. Ok? Et vous savez quoi? On peut même lui dire non seulement bienvenue, mais bienvenue dans mon pays au nom de Jésus. Parce que Jésus nous dit, si tu vois un étranger, eh ben, tu l'accueilleras bien, tu aimeras l'étranger comme toi-même, etc. Donc, je suis chrétien, je crois en Jésus, et Jésus, il me dit d'accueillir l'étranger. Tiens, un étranger, bienvenue dans mon pays au nom de Jésus. Vous lui expliquez ça dans votre mauvais anglais, en baragouinant un peu, ou alors vous le faites avec Google Translate, et vous lui expliquez, Jésus me dit d'accueillir l'étranger, tu es étranger, je te souhaite la bienvenue. Là, tiens, vas-y, répète le truc. Faites ça, vous allez voir. Ça enlève un peu des barrières. Vous dites, je suis un voisin, j'habite à Perpignan et je suis venu parce qu'on m'a dit que tu étais étranger, je suis venu te dire bonjour. Ok, vous lui expliquez ça. D'accord? Puis vous lui dites, tu viens d'où mon coco? Et le gars, il vous dit, moi je suis d'Afghanistan. Tu parles quelle langue? Alors là, vous avez le petit manuel d'audio-vie. Dari, Pashtu, Azaradi, Pashtu. Ok, Pashtu, 327. Tapez le numéro et vous lui faites, t'es couché, t'es du Pashtu. Et là, le gars, il va reconnaître la musique Pashtu et il va dire, waouh! Mais c'est super, je suis justement Pashtu, je comprends ça, c'est quoi? Et vous allez lui dire, mais c'est justement le message de la Torah et de l'Évangile, c'est comme ça qu'on dit la Bible chez les musulmans, en langue Pashtu. Est-ce que ça t'intéresse? Très poliment, oui, oui, ça l'intéresse. Donc il va écouter un peu, vous lui faites écouter un peu, quand il y a la clochette, vous tournez la page, vous lui montrez les images qui vont avec et tout ça, et puis vous lui dites, mais ça te plaît, tu veux que je te l'envoie dans ton téléphone? Bah ouais, Bluetooth. Allez, vas-y, allume ton Bluetooth et vous lui mettez l'évangile en Pashtu dans son téléphone. Et le gars, il a l'évangile dans son téléphone en langue Pashtu. Ok pour la stratégie? Voilà, c'est tout simple et ça marche bien. Alors, si vous voulez travailler parmi les migrants et parmi les non-atteints, la première ressource, c'est le Joshua Project. Joshua Project, c'est une base de données qu'on fait avec plusieurs missions, la Wycliffe, le film Jésus, Audiovie, d'autres, dans lesquelles on collecte toutes les statistiques sur les peuples non-atteints, les langues, les ressources existantes. Donc joshuaproject.net, hein, vous pouvez chercher, il y a des cartes, c'est super bien fait, c'est vraiment un outil qui est pas mal. Après, vous pouvez travailler sur les ressources audio-vie, je vais en parler un peu plus. Le film Jésus, vous cherchez film Jésus Wolof, et vous pouvez le télécharger et le faire voir, ou le donner, ou graver un DVD avec. Et puis bible.is, c'est un site qui est pas mal, sur lequel vous avez la Bible dans 1000 langues en audio, que vous pouvez télécharger et donner, là encore, à un voisin d'une langue quelconque. Alors, les outils audio-vie, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a une application qui s'appelle FiveFish. C'est une base de données sur laquelle tous nos messages sont disponibles. On a un kit qu'on utilise pour les données par Bluetooth. On utilise des radios. Je vais vous faire une petite démonstration. Je veux bien que tu prépares la radio et le... Voilà. On a des bibles solaires, je vous en ai montré. Des projecteurs aussi. On peut faire des projections dans les camps. Alors, d'abord, je vais vous présenter l'application FiveFish. C'est une application toute bête. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des téléphones portables ici. Il y en a? Ouais. Ok. Alors sur les téléphones portables, il y a ce qu'on appelle le Play Store ou l'App Store, c'est des endroits où on peut installer des applis. Hein. Alors ben, sur le Play Store, vous cherchez FiveFish comme ça, là, sans espace, même entre le Five et le Fish, et vous trouvez une application qui a un logo comme ça. Et sur cette application, on peut on va pouvoir trouver les messages de la Bible. Sur si vous avez un iPhone, c'est sur l'App Store, ça se trouve aussi. Et on peut sinon, si vous avez un Windows Phone ou un truc exotique, aller sur le site web fivefish.mobi pour pouvoir utiliser. Et la Bible solaire, elle fait quoi? J'ai pas vu. C'était dans ma capuche. Donc regardez un petit peu comment ça se présente, l'application. Vous avez simplement d'abord un pays, vous choisissez votre pays, Andorre, et vous allez trouver du catalan, du français. Vous avez toutes les langues parlées dans le pays. Donc cherchez Afghanistan, et vous allez trouver là le Brahui, le Dawi, le Dari, le Darzawazi, le Gorani, le Gojari, etc. Et vous avez même les noms alternatifs, hein, parce que Gojari, ça se dit aussi Gujari, Gujuri, Gujar, Gojri, Rajasthani, Gujri, Rajasthani, et même ça se dit comme ça aussi. Donc vous pouvez chercher dans différentes langues le nom de la langue en question, et regardez, quand vous avez choisi une langue, vous avez la liste des messages audio-vie existants dans cette langue, et vous pouvez directement la faire jouer à la personne qui est en face de vous avec un petit haut-parleur Bluetooth. Alors, petit haut-parleur Bluetooth, ça se perd avec le téléphone et vous faites écouter directement depuis votre téléphone et vous pouvez faire écouter ça à un groupe et il va pouvoir écouter directement le message de l'évangile. Alors, on a aussi un kit Bluetooth pour donner dans le téléphone, mais depuis l'application FiveFish, si vous avez un Android, vous pouvez faire partager et envoyer directement le message audio-vie dans le téléphone de la personne en face de vous. Alors, on utilise aussi pas mal une application qui s'appelle ShareIt. Je vais peut-être pas trop en parler, mais pour les jeunes là, qui vous pouvez installer ce truc-là. Et tous les migrants ont ça. Ça permet de donner l'évangile, le film Jésus, ce qu'on veut très rapidement, sans avoir besoin de connexion Internet. Tous les migrants utilisent ce truc-là, donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'utiliser. Puis on utilise pas mal des petites radios chinoises, standards, comme cette radio-là, vous voyez. J'ai acheté ça pour une dizaine d'euros, je rajoute une carte mémoire qui coûte 5 euros, et dedans j'y copie l'évangile dans plein de langues, et je peux faire écouter les messages audio-vie et regarder les textes d'images. Regardez, dans cette petite radio, il y a tout ça. Plein de langues. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si j'ai un Afghan, Pashtou, ben, je vais sur la première ligne, Afghanistan, et j'ai toutes les langues d'Afghanistan. Farsi, Dari, Pashtou, ok? Sur la deuxième ligne, j'ai les langues du Pakistan. Sur la troisième ligne, j'ai les langues d'Afrique de l'Est, Ouest-Afrique, etc. Donc, si je veux, par exemple, allez, on va se mettre de l'espagnol. Donc, Europe, et je prends 1005 espagnols, ok? Et là, sur mon clavier, je vais taper la langue barbare en question, l'espagnol. Vous choisissez la langue que vous voulez et vous faites jouer directement le message de l'évangile dans la langue. Et vous pouvez montrer les images, comme ça les gens regardent. Et vous tournez la page quand il y a la clochette. Donc on a tout un survol de l'Ancien Testament d'abord.
Quiero decirte algo sobre la cosa más importante del mundo, la relación entre Dios y el hombre. No es necesario tener el librito de ilustraciones que va con esta cinta, pero si lo tienes, el librito puede ayudarte a recordar la información de este cassette.
Donc, il y a quelques explications au début. Tú et après,
en el principio solamente Dios existía. No había nada más.
Okay.
Dios creó al mundo.
Je saute un peu les images pour vous montrer.
Viene del libro de Dios.
Voilà. Normalement, il y a la clochette qui vous dit tournez.
Dios nos habla a través de su palabra. Este libro nos da información acerca de Dios y sus caminos.
Ok. Donc ça nous explique comment connaître Dieu, etc. Et en fait, à chaque fois, on a des versets de la Bible et c'est sous une forme racontée. Ça permet de faire un survol de la Bible. Ça explique qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que l'expiation. Et puis, ensuite, il y a la vie de Jésus. Et puis, on arrive à une partie doctrinale où on explique le sens de la croix, les deux chemins, venir à Jésus, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, la repentance, et puis des bases de vie chrétienne aussi, hein, une famille chrétienne, comment c'est, qu'est-ce que c'est que le pardon, la miséricorde, tourner le dos à l'occultisme, le problème de la tentation, de la repentance quand on a chuté, etc., la prière, l'église, le retour du Seigneur, la proclamation de l'évangile. Donc vous voyez, en fait, on a en trois quarts d'heure le survol de la Bible, et c'est un truc qu'on peut mettre dans le téléphone des gens, mais des gens qui connaissent rien, ça vraiment va leur donner un panorama, une vision globale de ce que la Bible contient. On a aussi des outils comme ça, c'est des Bibles solaires, vous voyez, on a un panneau solaire derrière, on a un pied, ça tient comme ça, on a une petite bandoulière pour pouvoir le mettre autour du cou, et on a un haut-parleur, et là on a possibilité d'avoir la Bible dans plein de langues. Donc ici on va choisir la langue, ici le livre et ici le chapitre. La loi est venue par Moïse, mais la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous avez reconnu, j'espère. C'est de l'arabe, hein? Donc ici, le Fils qui vit dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître.
Okay.
Donc ici, je choisis le chapitre, chapitre 2. Je change. L'évangile selon Jean, le chapitre 3. Pharisien, Nicodème. Ok. Et ici, J'appuie le bouton.
Dari.
Et je passe en Dari d'Afghanistan.
Indile Mata. Mata Fasle Aval.
Chapitre 1.
Livre
des générations de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham.
Ibrahim, père d'Ishaq,
okay. J'appuie, on n'a pas besoin de comprendre pour le Dari pour deviner de quoi ça parle.
Matthew 1.
Ok. Et là, on a 10 langues.
Bambara.
Donc les langues d'Afrique de l'Ouest. Farsi.
Injil. Français.
Même le français.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Tigrinya. Tigrinya d'Érythrée.
Wangel Matthäus.
Urdu. C'est où ça déjà? Pakistan, il faut connaître. Hein. Farsi, Iran, Urdu, Pakistan. C'est deux, trois langues à connaître. Quoi.
Pashtu.
Donc, Nouveau Testament, Pashtu. La langue de Terza.
Kurde Sorani,
Kurde d'Irak. Vous voyez? Donc c'est sympa, on a des outils comme ça. Et vous pouvez nous aider. Alors, notre idée, c'est d'essayer d'en offrir aux réfugiés qui se convertissent. Et on a réussi à faire un prix assez impressionnant. On a 10 euros. Alors maintenant, avec le port et le dédouanement, je suis plutôt à 15. Mais voilà, il y a possibilité de les sponsoriser, ces Bibles-là. Et notre idée, c'est d'essayer d'offrir aux gens, surtout des peuples non atteints qui sont intéressés, la Bible dans leur langue, pour qu'ils puissent l'écouter. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, on a plein de choses à faire, hein, et on peut se répartir le travail. Il y a de l'alphabétisation, des cours de langue. Ces gens, ils ont besoin d'apprendre le français. Des fois, ils ont besoin de photos d'identité. On peut aller jouer au foot avec eux. On peut faire plein de choses. Mais si on a vraiment cet objectif qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Et vous voyez, là, on voit rien du tout. Alors, c'est pas grave. Mais ça, c'est à Paris. Vous voyez, c'est un groupe. Hier soir, ça y était. Toutes les semaines, il y a un groupe avec des églises, des chrétiens arabophones qui viennent nous aider. On fait des cultes en arabe pour ces gens-là, pour qu'ils puissent entendre. Et là, vous voyez, je suis ici avec 200 réfugiés yézidis. Vous savez, les yézidis d'Irak hein, qui se passent par un génocide terrible en ce moment. Ils sont tous venus entendre l'évangile pour la première fois. Ils n'avaient jamais entendu l'évangile. C'était un centre de réfugiés à côté. J'aurais proposé de venir à une fête de Noël. Ils m'ont dit oui. J'ai loué 4 gros bus. On a ramené 200 yézidis pour qu'ils entendent l'évangile. Vous voyez, en fait, il suffit de les inviter, quoi. Si vous voulez des news, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Atteindre, sur lequel on met des nouvelles, un petit peu du travail parmi les réfugiés. Il y a une liste email aussi, vous pouvez écrire à Yanis, mon fils, pour lui demander de vous rajouter. J'ai un groupe WhatsApp aussi, donc vous avez le numéro. Pour le travail qui est fait en région parisienne, le numéro est en dessous. Et puis, vous pouvez venir voir hein, tout à l'heure, puisqu'on va aller faire un petit tour. Voilà, merci pour votre attention, et puis que le Seigneur bénisse sa parole.
Merci beaucoup.